au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Alors, nous voilà de retour à Auto 360. Juste avant, Philippe, je vous rappelle la question du jour parce que je veux vous entendre sur cette question. Attendez-vous que la lumière de votre réservoir d'essence soit allumé avant de faire les pleins. Le plein, oui, c'est de l'essence, ça peut être de l'électricité, ça peut être d'autres choses, ça peut être du propane. On a vu à peu près de toutes les sortes. Alors voilà la question. Salut Philippe!
Salut Daniel!
Comment ça va?
Ça va très très bien, je t'ai dit pourquoi d'ailleurs. Et j'ai très très hâte de vous parler de la Lexus LC500.
Mais oui, mais avant, il faut parler de l'histoire.
Faut parler de l'histoire Lexus, de Lexus, exactement. Ça fait combien de temps que tu es chroniqueur automobile, Daniel?
Ah, ça fait 19 ans.
19 ans, bon, tu vois, on est quand même assez proche. Moi, ça fait 26 ans exactement. Puis ce qui est intéressant, quand on a des années d'expérience dans un domaine, c'est d'avoir assez de recul pour décortiquer, pour analyser les changements, les bouleversements, bref, l'évolution du domaine en question. Et moi, lorsque j'ai fait mes débuts comme chroniqueur automobile, il y a plus de 25 ans, j'aurais jamais pensé, par exemple, conduire des voitures hybrides ou électriques. Puis, si on m'avait dit que GM ferait faillite un jour, je l'aurais jamais cru non plus.
Non, non plus.
j'ai aussi été le témoin privilégié de la naissance de trois nouvelles marques à la fin des années 80, puis trois marques de prestige en plus. Parce que officiellement, j'ai commencé à pratiquer ce métier-là là, sur une base régulière en 1991. Puis les trois marques en question, Acura, Lexus, Infiniti, en étaient encore à leur premier pas à ce moment-là. Sauf que, bon, comme je m'intéresse à l'automobile depuis toujours, j'avais suivi de très près leur naissance et leur arrivée en Amérique du Nord, en lisant notamment les magazines américains. Mais...
T'en as oublié une, Philippe?
J'ai dit Acura.
Lexus, Infiniti, ça, t'as vu ça?
Ouais.
Une marque de prestige, il y a Genesis.
Ah, mais attends, on n'est pas rendu là. Tu brûles les étapes, Daniel.
Ben voyons.
On est au début des années 90.
Ah, OK.
Tu vas voir. Tu sais, comme je te dis souvent...
Suis l'histoire.
Là. Non, mais comme je te dis, c'est pas ça, je te dis tout le temps, tout est dans tout, tu vas voir. On va y arriver à Genesis, tu vas voir. T'es juste trop pressé, là.
Je sais.
C'est ça que ta blonde m'a dit aussi. Bon, alors... Donc, on disait que j'ai suivi l'évolution de très près de ces marques-là. Mais j'avais très, très hâte de conduire ces voitures-là pour voir si elles étaient à la hauteur des Allemandes. Parce que, faut le dire, hein, c'est Audi, Mercedes et BMW qui étaient ciblés au début. Puis surtout qu'à la fin des années 80, là, replace-toi dans le contexte, Cadillac et Lincoln avaient vraiment perdu tout leur lustre. C'était des marques là, qui étaient perçues comme des marques vieillottes, kitsch, quétaines, là, en bon québécois. On s'en moquait allègrement et avec raison, il faut bien le dire. Là. Alors, si on se replace dans le contexte de l'époque, c'était un pari qui était vraiment audacieux et même risqué pour des constructeurs asiatiques de s'aventurer sur le terrain des Allemandes. Bon, Honda, Toyota et Nissan étaient présents sur le marché nord-américain depuis une vingtaine d'années seulement à ce moment-là. Après des débuts laborieux, ils avaient réussi à se bâtir une réputation enviable grâce à la fiabilité de leurs véhicules, sauf que leurs voitures étaient abordables et c'est comme ça qu'elles étaient perçues par les consommateurs. Et là, on peut faire le parallèle aujourd'hui avec Hyundai et sa nouvelle marque de prestige, Genesis, parce que c'est exactement là qu'étaient les Japonais à la fin des années 80. Ils avaient gagné une crédibilité, mais leur marque, peu importe laquelle, n'était pas encore synonyme de prestige. Alors, en s'aventurant dans cet univers-là, les Japonais repartaient de zéro, pratiquement. Mm-hmm. Puis c'est Honda qui a parti le bal avec Acura en 1986. Infiniti et Lexus ont suivi trois ans plus tard, donc en 89. Mazda même devait se lancer à son tour, devait lancer sa propre marque, Amati, au début des années 90. Moi, je me souviens très, très bien de ça. Et finalement, ben, ils ont eu des problèmes financiers puis le projet a été mis sur la glace. En fait, il a avorté parce que la marque a jamais vu le jour.
Non.
Acura, par contre, a connu des débuts encourageants, mais il faut dire qu'ils avaient dans leur gamme un modèle abordable. Et je parle bien sûr de l'Integra, hein, un coupé sport qui a connu beaucoup de succès.
Acura, je pense qu'ils se sont jamais remis de l'Integra. Ils n'ont jamais connu un modèle qui a eu autant de succès que ça.
T'as absolument raison. Puis un cran plus haut aussi, Acura avait, tu t'en souviens peut-être aussi, la Legend.
Oui, la Legend. Ouais. Oui, 5 cylindres.
Non, ça c'était la Vigor.
Ah, la Vigor, ça, oui. C'est vrai.
Et la Legend...
Ça ressemblait tellement ces deux véhicules.
Ouais, la Legend est un petit peu plus belle, du moins la première, là. Mais la Legend, c'était, bon, c'était une berline de luxe intermédiaire qui se déclinait aussi en coupé. C'est important de le préciser parce qu'on va parler des coupés Lexus. Alors, c'était une berline de luxe intermédiaire, mais donc qui se positionnait en concurrente, là, des BMW Série 5 et Mercedes Classe E, par exemple, là. C'était une belle grosse berline avec un moteur V6, là. Lexus et Infiniti, eux, ils ont visé encore plus haut parce que ils avaient dans leur gamme, dès le début, un modèle pour concurrencer ce qui était, à l'époque, le haut de gamme de BMW et Mercedes, c'est-à-dire la BMW Série 7 et surtout la Mercedes Classe S, qui était la référence. Et pour ça, là, il fallait vraiment être culotté. Hein? Par contre, la stratégie a été payante, en tout cas pour Lexus, moins pour Infiniti. Puis pourtant, la première Infiniti Q45, c'était vraiment une réussite. D'ailleurs, on la qualifiait de Jaguar japonaise. Et pour en avoir conduit une, je te confirme que c'était une comparaison tout à fait appropriée, qui n'avait rien d'exagéré. Puis c'était une belle voiture en plus. Oui. Mais Infiniti s'est complètement planté avec les deux générations suivantes. Puis ils ont finalement abandonné le créneau des grandes berlines de luxe. Alors, Lexus est donc la seule des trois marques de prestige japonaises qui persiste dans ce segment avec la LS. D'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en reparler de la LS au cours des prochains mois parce que la nouvelle génération vient juste d'être dévoilée. Mais aujourd'hui, je vais parler d'une Lexus qui est encore plus prestigieuse et encore plus spectaculaire, la LC500. Ça, je vous garde ça pour le prochain bloc, mais avant, je vais revenir encore en arrière pour vous parler des coupés qui ont précédé la LC500 dans l'histoire de Lexus. Alors, je reviens en arrière. La genèse du projet Lexus remonte à 1983. Le projet d'une nouvelle division de luxe était connu à l'interne là, chez Toyota sous le nom de code F1, F pour flagship et 1 parce que c'était le premier modèle. Bon, il faut dire que Toyota, comme Nissan d'ailleurs, avait déjà des modèles de luxe dans sa gamme, mais ils n'étaient pas commercialisés ici, à une ou deux exceptions près, là. Chez Toyota, par exemple, c'était la Cressida, si tu t'en souviens, qui était le modèle haut de gamme en Amérique du Nord. Et pour vous situer, là, pour ceux à qui ce nom-là ne dit rien, la Cressida se situait une coche au-dessus de la Camry, un peu comme l'Avalon aujourd'hui.
Ouais, c'était une grosse Camry.
Ouais.
Mais c'était pas excitant au coup d'œil.
Non, mais ben, il y avait un 6-cylindres quand même, tu sais, puis c'était ce que Toyota faisait de mieux, en tout cas ce qu'il y avait de mieux de ce côté-ci. Ben oui, ils avaient déjà essayé d'autres modèles de luxe avant. Ils avaient eu la Mark II, ils avaient eu la Crown, mais ça se vendait pas. Tu sais, les gens n'étaient pas prêts à payer pour une Toyota.
Japonaise à l'époque, c'était une petite voiture.
Aussi. Alors, mais on savait déjà que ce serait difficile de vendre des voitures encore plus chères sous la bannière Toyota en Amérique du Nord, parce qu'on l'avait essayé, justement. Et c'est pour ça que la marque Lexus a été créée. Elle a été créée expressément pour l'Amérique. Alors, au début, la gamme Lexus comptait seulement deux modèles. La ES250, qui était déjà une Camry déguisée en berline de luxe, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Et la LS400, qui était là vraiment une limousine là, à moteur V8, qui était l'adversaire déclaré de la Mercedes Classe S, à laquelle elle ressemblait beaucoup d'ailleurs, ce qui nourrissait la réputation de copieur des Japonais. Puis vous pouvez d'ailleurs voir des photos des anciennes Lexus sur ma page Facebook. On les a mises en ligne là, juste avant l'émission. Alors, contrairement à la ES, la LS ne partageait pas ou très peu d'éléments avec les Toyota. Puis son V8 de 4 litres était un tout nouveau moteur. Il avait été développé exclusivement pour elle. Et la LS a connu beaucoup de succès dès le début, au point même d'affaiblir les ventes de BMW et Mercedes et de les affaiblir sérieusement à part ça, là. Et là, ben, Lexus s'est implanté au Canada l'année suivante, donc en 1990. Il y a un troisième modèle qui s'est ajouté en 1991, la SC400, qui est en quelque sorte l'ancêtre de la LC500 d'aujourd'hui. C'est le premier coupé de l'histoire de Lexus. Puis encore une fois, on avait visé haut, hein, elle avait le même V8 que la LS400. Et là, ce sont les gros coupés allemands qui étaient ciblés, donc BMW Série 6, Mercedes SL et aussi la Jaguar à l'époque, la XK. Il faut dire qu'on avait donné les bons outils à la SC400. Bon, elle avait le V8, elle aussi, et elle avait un look spectaculaire, ce qui est très important dans la catégorie des coupés. C'était un look qui était controversé, mais qui était spectaculaire.
Oui, arrondi. Là,
pour être rond, c'était rond.
C'était très rond. C'est une voiture qui était très appréciée par les femmes, d'ailleurs.
Oui, mais moi, je peux te dire que pour en avoir conduit aussi, c'était très agréable à conduire.
Tu sais qu'aujourd'hui, ces véhicules-là, si tu réussis à en trouver une, elles ont gardé beaucoup de valeur et elles sont recherchées encore, ces voitures-là.
Il y en a même qui font venir du Japon. Avec des conduites à droite, ça s'appelle des Toyota Sourer, d'ailleurs, je vais y revenir à l'instant. Mais juste avant, pour te dire que quand on parle d'un design réussi, il y a un signe qui ne trompe pas, souvent, là, c'est la longévité. T'sais, est-ce que ça vieillit bien? Ben, la SC400, ça a très bien vieilli, puis elle a eu une longue vie. C'est une voiture qui a duré 9 ans. Là. Oh. Sans prendre une ride, c'est encore une belle voiture à la fin de son cycle. Puis moi, encore aujourd'hui, je trouve ça beau, toi aussi, visiblement.
Ben oui.
Alors, la première génération était en fait un coupé de luxe Toyota, la Sourer, qui était vendue seulement au Japon. Donc, la première Lexus SC400 était une Sourer de troisième génération. Et encore une fois, là, vous pouvez la voir en photo sur ma page. Chez nous, en Amérique, la SC a été renouvelée une seule fois en 2001. Puis encore une fois, son cycle a duré 9 ans. On l'a rebaptisée SC430 lors du renouvellement. Et ça, c'est à cause de l'augmentation de cylindrée de son V8 qui est passé de 4 à 4,3 litres pour une puissance à l'époque là, de 285 chevaux. Et dans le processus de renouvellement, elle est aussi devenue un coupé cabriolet, c'est-à-dire une décapotable avec un toit rigide. Et à ce moment-là, la SC a changé de vocation et pour beaucoup même, elle a complètement perdu sa saveur. On l'a vraiment embourgeoisée, je dirais même américanisée, pour en faire un gros coupé de luxe là, qui n'était pas sportif du tout. En as-tu conduit, toi, Daniel?
Non, pas vraiment.
T'as pas connu la SC430? Parce que bon,
oui, ben, je l'ai connu, mais tu sais, j'ai pas vraiment roulé dans cette voiture.
Ouais, je peux te dire qu'il n'y avait pas grand-chose d'excitant là. Ça, je peux te le confirmer là. Alors, à défaut d'être un succès populaire, ben, la SC400 avait été un succès critique. La SC430, elle, a vraiment polarisé les opinions. Sur un strict plan rationnel, on ne peut pas dire que c'était une mauvaise voiture. Sa qualité de construction respectait les plus hauts standards, là, conformément à la réputation rapidement établie de Lexus. C'était une voiture qui était très confortable, qui était luxueuse, qui était raffinée, qui était silencieuse, qui était fiable en plus. Mais les puristes l'ont varlopée, l'ont démolie. Top Gear a même dit que c'était la pire voiture parce qu'elle était tout ce qu'une GT ne devait pas être. Une voiture lourde, pataude, pas agile du tout, ennuyante à conduire. Je te l'ai dit. Une voiture vraiment là, d'une autre époque. Mais finalement, c'est la popularité déclinante des coupés qui a finalement signé l'arrêt de mort de la SC430 en 2010. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et ça, je vous raconte la suite dans le prochain bloc.
Oui, et ça ne sera pas bien long. On s'arrête pour une pause, on vous revient.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco. Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oui, on retrouve Philippe Lagu pour son deuxième bloc. Cette fois-ci, il nous parle de la Lexus LC500. C'est bien ça, Philippe?
Oui, mais tu vas nous en parler toi aussi, parce que tu l'as conduit, tu as conduit la version hybride, hein?
J'ai conduit la version hybride, je l'ai adoré.
Bon, alors, on en parlait...
Mise à part une petite affaire.
Ben, tu vas nous dire ça.
Tu veux que je te le dise tout de suite?
Au moment approprié.
OK, parfait.
Hein? C'est quoi que t'as... Ben, en fait, dis-moi, est-ce que ça va être quand on va parler de la carrosserie à l'intérieur?
C'est au niveau de l'électronique à l'intérieur.
Je pense qu'on va être d'accord. Mais là, encore une fois, tu brûles les étapes, tu vas trop vite. Je t'avais de te donner une contravention, Daniel.
Okay, ça continue. Excusez,
Là, il va falloir serrer la vis, là.
Maudite vacances, j'en prendrai plus, je suis trop excité.
Ben oui, t'es hyper, hein? Ben c'est correct, ça t'a énergisé, c'est ça le but des vacances, hein?
Et voilà.
Bon, alors on en parlait dans le bloc précédent, la production des coupés Lexus, là, des coupés SC, parce que c'était SC au début, s'est arrêtée après 18 ans, en 2010. Et là, on pensait bien que c'était la fin des coupés Lexus. Hein? Les coupés, c'était plus ben à la mode, tout le monde voulait des VUS. Bon, évidemment, il y a eu ensuite la LFA, qui était le premier supercar de Lexus, 500 exemplaires qui ont été construits entre 2010 et 2012. Elle avait un V10, 4,8 litres, conçu en collaboration avec Yamaha, 560 chevaux. Bref, voiture ultra spectaculaire, mais ultra chère aussi. C'était plus d'un demi-million l'exemplaire. Alors ça a vraiment été, là, ça a duré 2 ans, merci, bonjour, fini. Par contre, Il y a une surprise qui attendait les journalistes au Salon de Détroit en 2012. Un superbe prototype qui trônait dans le kiosque Lexus, un coupé sport aux lignes vraiment spectaculaire, la LC-LF. Et ça, j'étais là, à Détroit, en 2012, je m'en souviens très, très bien, et le prototype en question m'avait décroché la mâchoire. Et ça, Daniel, ça m'arrive pas souvent avec une voiture japonaise, encore moins quand ça vient de chez Toyota.
Effectivement.
Et là, à ce moment-là, ben, la machine à rumeur s'était emballée parce que le prototype en question avait vraiment l'air d'un véhicule qui était prêt à rouler. Là. C'était pas quelque chose qui était ultra flyé là, avec un joystick à la place du volant, là, par exemple. Là. Non, c'était vraiment un beau coupé qui semblait fin prêt à entrer en production. Mais il a quand même fallu attendre 5 ans. La version finale a été présentée encore une fois à Détroit en 2016, mais sa commercialisation a commencé cette année. Et chose rare, ça vraiment, il faut le spécifier, elle est en tout point semblable au prototype. Et ça, c'est pas moi qui va s'en plaindre.
Absolument pas, puis ça c'est vrai.
Oui, et puis d'ailleurs, hein, Daniel, pourquoi on achète un coupé? Pour le style,
hein? C'est ça.
Avant tout, là. Et de ce côté-là, ben, c'est vraiment réussi. La LC500, c'est une décrocheuse de mâchoire. C'est un aimant pour les yeux, vraiment. Là. Puis côté impact visuel, là, écoute, on est vraiment dans la même ligue que Ferrari ou Lamborghini. Alors, le profil est vraiment spectaculaire. Il y a des lignes tendues, ciselées. Ça a l'air d'avoir été sculpté, mais il y a aussi des rondeurs. La partie arrière, en particulier, là, qui est vraiment très, très bien galbée, là, surtout au niveau des ailes. Puis ça, c'est pas évident, là, mais c'est à la fois très agressif et élégant. Et ça, c'est un mariage qui n'est pas toujours évident ou qui n'est pas toujours réussi, en tout cas. Et on retrouve évidemment la gigantesque calandre là, qui est la nouvelle signature des Lexus, là, mais moi, je trouve qu'elle s'intègre très, très bien à la carrosserie. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
Absolument. Très beau. Très réussi. Il faut que ça soit visuel. Un véhicule comme ça, ça doit être frappant et elle est frappante.
Il y a de l'impact, hein?
Ah oui,
ouais, vraiment. En tout cas, moi, je me souviens pas de la dernière fois où une japonaise m'a fait autant d'effets. Puis tu sais, hein, le grand patron de Toyota, M. Akio Toyoda, faut faire la nuance, hein, il y a une petite subtilité de langage là, en japonais, mais comme je suis pas un expert, comme mon japonais n'est pas très, très au point, je me risquerai pas à te l'expliquer. Mais bref, M. Toyoda avait promis en 2011, c'était à Pebble Beach, que Lexus ne produirait plus de voitures ennuyantes. Et une chose est sûre, les designers de la LC500, ils ont bien reçu le message. Ils n'ont pas raté leur coup et on est vraiment très loin du style générique là, des berlines Lexus. Là. Par contre, à l'intérieur, là, il y a une méchante déception. Là. Et pas pour la finition, qui est impeccable là, dans la plus pure tradition Lexus. Le problème, il est au niveau ergonomique et, tu disais, électronique. Il n'y a aucune commande qui est intuitive là-dedans. On dirait qu'ils ont fait exprès. Non, mais sérieux, le système multimédia, là, c'est carrément dangereux. Là.
Oh oui.
Hein? On le manœuvre avec un touchpad, là, et ça, c'est vraiment tout sauf une bonne idée dans un véhicule.
Je dois avouer que j'ai donné un ou deux coups de poing à ce touchpad.
Ah, non, mais c'est vraiment frustrant. C'est pour ça qu'il marche mal. Ah oui, c'est ça, parce que tu es la même que moi. Hein? OK, je comprends.
C'était des coups de poing dociles.
Ah, OK, mais... ouais. En tout cas, si on me pose des questions chez Lexus, je vais... Je sais qui blâmer, là. Non, mais blague à part, là, c'est imprécis. C'est franchement exaspérant, tu sais, au point où, justement, on sac après ou on donne des coups de poing, là. Et c'est très distrayant aussi. Alors, c'est extrêmement dangereux. Puis moi, en ce qui me concerne, juste ça, ce serait un frein pour moi. Si j'avais les moyens de m'acheter une voiture comme ça, là, j'y penserais deux fois juste à cause de ça, parce que quand même, là, c'est dans l'habitacle, là, c'est pas rien, là, c'est quelque chose que t'es obligé.
Mais on passe notre vie dans l'habitacle, alors soit
on est obligé d'utiliser ça,
s'habituer, puis ça, j'en doute, mais c'est un système qui, on dirait que c'est un système qui date d'il y a 10 ans.
Oh, oui.
Il y a 10 ans, on aurait trouvé ça moderne.
On aurait trouvé ça moderne, mais même il y a 10 ans, on aurait dit c'est dangereux puis ça n'a pas sa place.
C'est ça.
Alors, 10 ans plus tard, c'est encore moins.
On aurait pu le comprendre. Mais une voiture aussi moderne, aussi futuriste, on va devoir changer ça et le plus rapidement possible.
Ah oui, ça, ils sont vraiment, vraiment plantés. Puis c'est dommage parce que pour le reste, dans l'habitacle, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi, je trouve qu'il n'y a rien à redire. Là.
Ah non, c'est impeccable.
La finition, tu sais, c'est vraiment, c'est cossu. C'est vraiment digne. T'sais, écoute, la qualité d'assemblage puis la finition, moi, j'ai trouvé ça comparable à l'Aston Martin que j'ai essayé cet été. Là. C'est de ce niveau-là. L'insonorisation, bien, on est chez Lexus, alors on n'est pas surpris. C'est impeccable. Mm-hmm. Les sièges qui sont hyper confortables, mais qui sont très enveloppants aussi. Mm-hmm. Pour résumer, moi, je te dirais que c'est un habitacle de voiture de luxe avec des sièges de voiture sport.
Hein?
C'est
bien
vraiment,
dit.
C'est vraiment ça. Côté mécanique, ben, on a deux propositions. Un V8 de 5 litres atmosphérique, 471 chevaux, le même que la GSF et le coupé RCF, qui peut être jumelé dans la LC à une boîte automatique à 10 rapports. L'autre choix, ben, c'est un V6 de 3,5 litres qui est jumelé, lui, à un moteur électrique qui est alimenté par une batterie de 44 kW. Et ça, ben, ça donne une puissance combinée de 354 chevaux. Alors, on n'est pas très loin de la puissance du moteur à essence conventionnel. Et c'est jumelé à une transmission, en fait, c'est une transmission assez étrange, hybride elle aussi, parce qu'elle est composée d'une boîte à variation continue, là, une CVT, avec deux moteurs électriques et une boîte automatique à 4 rapports. Donc, concrètement, ça veut dire que c'est deux transmissions qui travaillent ensemble pour simuler les sensations d'une boîte de vitesse automatique à 10 rapports, comme la version avec le V8. Toi, laquelle des deux que tu as conduit, Daniel?
J'ai conduit la version hybride.
La version
que
hybride.
J'ai adoré, qui fait aussi. Tout de bien. Tout
moi
de
aussi, bien. Mais je vais te parler du V8 aussi. Parce que le V8, là, il y a vraiment du son.
Son.
Oh yes! Puis t'as la puissance qui est là aussi. Là.
Oh,
oui, oui, ça avance, là, mais frisson garanti quand on accélère vraiment. Ils ont fait du beau travail de ce côté-là. Il y a 6 modes de conduite qui sont proposés, économique, confort, normal, custom, sport et sport plus. Bon, évidemment, si vous voulez des sensations plus sportives, allez pas du côté de l'hybride. Mais moi, j'ai quand même été surpris. Non. Parce que quand on choisit les modes de conduite sport ou sport plus, il y a du son, même avec l'hybride.
Même avec l'hybride. Et il se passe quelque chose.
Il se passe quelque chose aussi.
Tu as de la puissance. Là.
Tu fais bien de le dire.
Tu sens l'effet de couple.
Il n'y a pas juste du son. Non, ça bouge.
Oui, ça bouge.
Ça bouge, puis on sent que l'antipatinage, là, il travaille fort en arrière. Là.
Mais tu peux faire les deux. C'est la version hybride est civilisée. Tu peux t'énerver un petit peu avec le véhicule. Et tu peux la conduire de façon civilisée, sans déranger le voisinage. Tu t'en vas, c'est confortable. Évidemment, à l'extérieur, tu as le style qui dérange, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui décroche les mâchoires.
Qui dérange, mais dans le bon sens du mot, ouais, c'est ça.
Oui, mais au niveau du son, voilà que tu peux te promener comme tous les jours, contrairement au V8, que là, le son est toujours présent.
Oui, puis en conduite régulière, avec l'hybride, on n'entend rien. Puis
c'est ça.
Pour certains, c'est un défaut, mais moi, je trouve que c'est pas désagréable non plus. C'est beaucoup plus zen. Puis de toute façon, en version régulière ou en version hybride, la LC propose deux expériences de conduite complètement différentes. Fait que à partir de là, vous y allez selon vos priorités. Là. Sauf qu'il y en a qui se questionnent sur la pertinence d'une motorisation hybride dans ce genre de voiture-là, ben, moi, j'ai envie de leur répondre. Ils sont aussi bien de se faire à l'idée, parce que c'est là qu'on s'en va. Le futur, c'est maintenant, là. Puis ce qui est intéressant aussi avec l'hybride, hein, on en parlait en début d'émission, c'est qu'elle consomme aussi 3 litres de moins aux 100 km. Moi, j'ai obtenu une moyenne de 9,1 litres exactement avec l'hybride, contre 12,1 avec la V8. Alors, il y a 3 litres pile de différence entre les deux. 9,1 litres au 100, là, avec une voiture très sportive, là, je commence à trouver que ça a du bon sens. Puis ça, c'est une moyenne, là, donc ça implique que j'ai fait de la ville aussi avec. Là.
Et voilà.
Puis là, il y en a qui disent, oui, bon, mais 300... c'est quoi, le 374?
Chevaux,
ouais, bon. Alors, 375 chevaux, on va faire un chiffron. Il y en a qui disent, ouais, mais c'est moins puissant que les BMW ou les Mercedes comparables. Ha, ha, ha. Il y a une version F qui s'en vient. Mm. Et la rumeur parle d'un V8 biturbo de 600 chevaux. Et ça placerait une Lexus LCF, là, entre la BMW M6, qui a 560 chevaux, et la Mercedes AMG S63, qui, elle, en a 612.
Absolument. Alors, et là, de ce côté-là, il y a une chose que moi, je peux vous dire, c'est que la plateforme est tellement rigide que j'ai aucun problème à avoir 600 chevaux dans cette voiture.
Ben vraiment pas. D'ailleurs, rappelez-vous de la promesse de M. Toyoda. Hein? Il avait dit « Fini les voitures ennuyantes ». On peut dire que ses designers l'ont écouté, mais on peut dire que ses ingénieurs l'ont écouté aussi, parce qu'ils ont fait vraiment tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse tenir sa promesse. Bon, d'abord, l'essentiel, tu viens de le dire, un châssis qui est ultra rigide, puis une caisse qui l'est tout autant. Moi, j'ai eu l'impression là, que la carrosserie était construite là, d'un seul bloc. Hein? Non, mais c'est vrai. Quasiment l'impression de conduire un coffre-fort. Là. Et le poids est vraiment très bien réparti, hein? 52 % à l'avant, 48 % à l'arrière. Par contre, et ça, tu vas être d'accord avec moi probablement, c'est un petit peu pesant, hein? Oh, oui. Que c'est... Écoute, on dépasse 2000 kilos. Bon, ça, c'est correct. On est... Au niveau du poids, on est à peu près dans les mêmes ligues que les modèles allemands concurrents. Ils sont aussi pesants que ça. Sauf qu'écoute... C'est 4400 livres, là, c'est plus qu'un Honda Pilot. C'est quand même gros là, pour une sportive. Là. Puis imagine si elle avait la traction intégrale en plus, parce que là, c'est une propulsion. Et puis pourtant, on a utilisé des matériaux composites, mais non, c'est encore trop lourd, il n'y a rien à faire. Remarque là, Daniel, là. Il y a toujours pire, hein? Parce que moi, j'ai moins senti l'excès de poids dans la Lexus que dans une BMW M6, par exemple. Ça, je peux te le dire parce que j'ai mon baromètre, c'est ma blonde. Okay. Alors, ma conjointe a eu mal au cœur dans la M6, ça veut dire que le char est trop pesant. Parce que, non, mais vraiment, elle ressentait le transfert de poids, là, mais vraiment trop. Et elle n'a pas eu mal au cœur dans la Lexus. Alors voilà, le verdict est implacable.
Ça vient de tomber.
Pas très scientifique, j'en conviens, mais quand même. C'est toujours la même unité de mesure, au moins.
Hein? Et voilà.
On est constant. Et puis d'ailleurs, ben, les kilos en trop pénalisent pas tant que ça le comportement. Bon, évidemment, c'est pas sportif comme une Jaguar F-Type ou une Corvette, mais faut pas oublier que c'est pas la même vocation non plus. C'est un coupé sport de luxe. C'est une GT, mais au sens véritable, une voiture grand tourisme, qui m'a fait d'ailleurs penser à la défunte Jaguar XKR, qui est une voiture qui me manque beaucoup. La Lexus a la même grâce que la Jaguar, alors que les coupés allemands, moi, je trouve que c'est des paquebots. C'est vraiment gros, c'est massif, c'est pesant. Alors, c'est pas une voiture de piste, mais une GT. Si vous voulez une voiture pour aller sur un circuit, ben regardez ailleurs ou attendez la version F. En conclusion, que toi, Daniel, pour la LC?
Pour la LC, moi, j'ai adoré la LC. Sport, luxe et prestige, ça va exactement dans ce thème-là. C'est la voiture qui représente le mieux ton thème, Philippe.
Ben, je l'avais pas vu comme ça, t'as un bon point. J'ai beaucoup aimé, moi aussi. C'est tout ce que doit être une GT, le look, le confort, les performances, avec deux valeurs ajoutées, puis je termine avec ça, une version hybride et la fiabilité, parce que ça, dans ce segment-là, c'est une denrée rare. Et autre valeur ajoutée, en terminant, ben son prix, qui est très concurrentiel, toute chose étant relative, évidemment, très concurrentiel dans cette fourchette de prix, dans cet univers. Alors, voilà... Absolument. Ça continue.
Alors,
notre...
si les gens veulent voir des photos, Philippe, ou encore te lire, c'est à quel endroit?
PhilippeLagu.com. On a aussi des photos de la LC500 hybride, la même que tu as conduit, sur ma page Facebook.
Wow, voilà. Alors, on s'arrête et au retour, on répond à vos questions. Restez là.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Auto 360, de retour après la pause.
Horizon Cogeco.